Chers amis, Genèse chapitre 12, une des heureuses manières d'apprendre par cœur, hein? Genèse 12, verset 1er et verset 4, Genèse 12, verset 1er et verset 4. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Verset 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Chapitre 15 du même livre, au verset 7, une parole de l'Éternel à Abraham, 15:7. Après cette déclaration centrale au verset 6 concernant ce qu'on appelle donc la justification par la foi pour Abraham. Abraham, verset 6, eut confiance en l'Éternel, adhéra à l'Éternel, s'enracina dans l'Éternel. C'est un mot très très fort, d'où vient notre mot « Amen ». C'est la vérité. Je peux m'appuyer sur cette parole, elle est vraie. Amen, amen, disait Jésus tant et tant de fois, encore une de ces répétitions des évangiles. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice, qui le mit sur son compte à justice. Certaines versions ont pris le texte très littéralement. Abraham s'appuya sur l'Éternel qui le mit à son compte en justice. Verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, comme ce matin, mais au chapitre 19, Matthieu chapitre 19, dont je lirai pour vous les versets 27 à 30. Versets 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Enfin, donc l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 49 à 53, Luc 12, 49, à 53, passage qui rejoint celui que nous avons lu ce matin dans Matthieu 10, mais en des termes légèrement différents et complémentaires. Je lis au verset 49 de Luc 12, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Et il est intéressant de constater que le texte grec met en tête de phrase le mot « feu » pour souligner l'importance de ce message sur le feu. « Je suis venu jeter un feu. » Un feu ou le feu, « Je suis venu jeter sur la terre. » Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division, car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, deux contre trois. Et ensuite, alors, on n'a pas fait la répétition. Vous vous souvenez, ce matin, je vous ai expliqué que pour ne pas alourdir certains passages des Écritures, lorsque la vérité se suffisait à elle-même dans ce qui était dit, on ne répète pas. Ici, justement, une de ces répétitions intéressantes ne figure pas dans le texte. Le verset 53 commence par la même expression que nous avions verset 52, « Désormais, cinq dans une maison seront divisés. » Alors en français, pour ne pas alourdir, on n'a pas répété. Mais en fait, le verset 53 reprend « Ils seront divisés. » Il y a une insistance. Comme si Dieu voulait attirer l'attention par, une fois de plus, ce superlatif, n'est-ce pas ?« Ils seront divisés. » Père contre fils, fils contre père, mère contre fille, fille contre mère, belle-mère contre belle-fille, belle-fille contre belle-mère. Ils seront divisés, dit le texte. Troisième caractéristique fondamentale de la foi, elle nous préoccupe depuis la fin de notre deuxième étude hier soir. Nous y avons consacré du temps durant l'étude, la troisième ce matin, et nous allons terminer sur cette troisième particularité de la foi authentique d'Abraham et de tout croyant. Elle exige une séparation pour Dieu. Quitte ton pays. Voilà qui nous a interpellés ce matin. Ensuite, nous dit le texte, vous l'avez lu avec moi dans Genèse 12, quitte ta patrie, quitte ton pays, passe de l'autre côté, quitte ta patrie, quitte ton enfantement, aurions-nous pu traduire ce qu'un traducteur a rendu par quitte ta ville natale. Qu'est-ce que cela signifiait pour Abraham lui-même ? La patrie, donc. Le lieu natal, la sécurité matérielle, les traditions familiales, d'éducation, de religion en tout cas, pour les siens, les habitudes, le petit nid. Et c'est volontairement que j'utilise cette expression, le petit nid, qui évoque la chaleur, la sécurité, le confort, quelque chose de douillet, n'est-ce pas ? Parce que, et nous allons prendre un tout petit peu de temps pour étayer cette affirmation, Abraham ne quittait pas une caverne préhistorique, une quelconque jungle hostile, Non. Il était jusqu'alors le citoyen d'une ville considérable, citoyen aisé, appelé subitement à quitter un monde raffiné, cultivé, riche, pour se lancer à travers les déserts de Syrie. Ur, en Chaldée, centre culturel et commercial de la Mésopotamie méridionale, ville qui n'était plus tout à fait à l'apogée de sa grandeur, mais qui continuait à assurer à ses habitants une existence florissante. À cette époque, seuls les artisans de l'Égypte surpassaient les siens, et les vaisseaux qui arrivaient par le fleuve jusque-là apportaient des produits de l'Orient en échange des céréales cultivées dans le pays. Et un grand nombre de ses habitants étaient fortunés et vivaient dans des demeures spacieuses. Alors, je suis allé fouiller dans toute ma documentation sur le monde ancien, sur Ur en Chaldée en particulier, et nous avons des privilèges en matière de connaissances sur cette cité, tout comme sur Babylone, puisque Ur comme Babylone ont été abondamment fouillés, ces ruines très importantes ont beaucoup intéressé ce qu'on appelle l'archéologie, n'est-ce pas, cette science qui va à la recherche de l'histoire du monde ancien à travers l'exploration en particulier de ces tels, de ces collines qui recèlent des trésors dans ces strates, ces couches successives qui souvent correspondent aux villes qui se sont succédées au fil des siècles, voire des millénaires. Chaque strate renfermant des éléments matériaux qui permettent de connaître quelque peu l'histoire, qui permettent même de la dater à partir des monnaies, à partir des poteries, à partir des éléments contenus dans les tombes, parfois dans les cimetières, parce que dans les traditions religieuses, on plaçait, vous le savez, dans les nécropoles, pensez à l'Égypte par exemple, mais aussi dans ces pays, on plaçait des éléments très précis qui accompagnaient en quelque sorte le mort dans l'au-delà. Donc nous avons un patrimoine extraordinaire dans le domaine archéologique sur certaines parties de l'histoire ancienne, certaines régions du monde ancien, et en particulier sur cette Mésopotamie, toute cette région particulière, très riche, située entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et qui correspond en grande partie à l'Irak actuel d'ailleurs. Et on a entrepris des fouilles très importantes dans la ville même d'Ur entre 1922 et 1934. Et on a donc une énorme documentation. D'ailleurs, on continue à travailler sur toute cette documentation parce que elle est d'une importance énorme et il faut aussi des moyens financiers et en personnel formé, équipé, il faut des moyens absolument énormes qui représentent des sommes énormes. Et encore actuellement, à l'heure actuelle, parmi les dizaines de milliers de tablettes, par exemple pour simplement la région de Babylone, on a décrypté, déchiffré le contenu de ces tablettes, mais d'une petite minorité de ces tablettes. Si on avait les moyens, on pourrait encore faire quantité extraordinaire de découvertes qui nous montreraient l'excellence de la vérité biblique, ce cri des pierres dont Jésus lui-même a parlé. Dans mon livre consacré à Daniel, les premiers chapitres traitent précisément des recherches archéologiques et de tout ce qu'on a pu trouver à cet égard dans la région et dans la ville de Babylone. Alors, je vais, par souci de simplicité, parce que le texte est intéressant en lui-même, vous citer quelques extraits qui décrivent le contenu de certaines de ces découvertes bouleversantes dans la ville dure pendant ces années de fouilles. Alors je sélectionne ici et là quelques passages. Un premier, la mise au jour de l'intérieur de la ville dure et les découvertes qui en sont résultées ont modifié l'idée qu'on s'était faite jusqu'alors du milieu dans lequel Abraham a passé ses premières années. Et le chef d'expédition, un Britannique qui a travaillé à cette époque, nous apprend qu'à l'époque du grand patriarche, les citoyens d'Ur habitaient des maisons aux murs faits de briques cuites en bas, de briques séchées en haut, recouvertes de plâtre, peintes en blanc sur toute leur étendue. Ces maisons avaient deux étages, ne comptaient pas moins de 12 pièces et davantage groupées autour d'une cour centrale pavée. Les rues de la ville étaient très étroites, les murs de part et d'autre dépourvus de fenêtres. Les maisons prenaient air et lumière, en effet, du côté de la cour. L'intérieur de ces habitations rappelle celui de nos maisons modernes. L'escalier qui menait à l'étage supérieur était fait de briques plutôt que de bois. Le cabinet de toilette se trouvait placé sous cet escalier. Je précise qu'il y avait un système d'égout absolument remarquable, fort bien mis au point déjà à cette époque. Il y avait aussi la cuisine avec son foyer, la salle de réception avec ses portes plus larges que les autres, l'office et la chapelle familiale pour le culte. Contre le mur de fond de cette chapelle se trouvait un autel en briques avec une petite niche au-dessus ou sur le côté pour les figurines d'argile ou les téraphimes que nous retrouvons dans le livre de la Genèse ailleurs, dans l'histoire de Jacob notamment. Sous le plancher de la chapelle, un tombeau voûté s'ouvrait où les membres de la famille étaient enterrés. Nous savons aussi ce qu'était l'éducation que recevaient les habitants d'Ur par les tablettes cunéiformes. Ça, c'était le style et le type de caractère d'écriture utilisé à cette époque. Une écriture en coin ou en forme de clou, d'où vient l'expression cunéiforme, gravée dans la masse de la tablette quand elle était encore suffisamment molle, mais bien sûr qui ensuite, avec la sécheresse de ces climats, pouvait se conserver jusqu'à aujourd'hui. Donc, quelques-unes de ces tablettes ont un caractère historique. D'autres sont des hymnaires, d'autres traitent de mathématiques ou d'arithmétique. Parmi ces dernières, on a même trouvé des méthodes pour l'extraction des racines carrées et cubiques. On éprouve une impression singulière quand on songe qu'Abraham et Sarah non seulement étaient capables de lire et d'écrire, mais qu'ils ont peut-être connu dans leur enfance les mêmes exercices pénibles que les écoliers d'aujourd'hui. L'histoire nous apprend encore autre chose. Les Sumériens, donc toute cette région, qui jouissaient en Asie de la réputation de lettrés, de savants, de magiciens, experts, furent en quelque sorte les initiateurs scientifiques du monde antique. Autant que nos connaissances actuelles permettent d'en juger, c'est en Sumérie que nous trouvons pour la première fois des états et des empires, des travaux d'irrigation, l'usage de l'or et de l'argent comme étalon de valeur, les premiers contrats commerciaux, les premiers systèmes de crédit, le premier code de loi, la première diffusion de l'écriture, les premières bibliothèques et les premières écoles, les premiers essais littéraires et poétiques, les premiers phares et les premiers bijoux, les premières traces de sculpture et les premiers bas-reliefs, les premiers palais et les premiers temples, le premier arc, la première colonne, la première voûte et le premier dôme. Et je pourrais continuer ainsi. On a retrouvé des temples aussi et des tablettes. L'art d'écrire était développé au point qu'il existait des bibliothèques, des dictionnaires, des tables mathématiques et même des cahiers pour les écoliers. Sur une tablette, on a relevé le nom d'Abraham. Ce n'était pas celui de l'Abraham biblique, mais celui que portait déjà un petit fermier quelque temps avant le personnage de la Bible. Je continue un peu plus bas. La lecture des tablette de Marie. Alors Marie a été une grande ville, importante, capitale, mais située presque à mi-chemin entre Ur, qui était beaucoup plus au sud, beaucoup plus près de Babylone, et puis Charan, que nous allons encore évoquer dans un instant. Là, presque au bord du fleuve, comme toutes ces grandes cités, vous aviez cette ville de Marie qui a été tout particulièrement visité par un grand spécialiste français qui a été conservateur au musée du Louvre, André Parot. Nous avons toute une série d'ouvrages très intéressants à cet égard et il nous a beaucoup apporté dans ce domaine. Et donc la lecture des tablettes de Marie, mais qui appartenait à ce groupe de villes, nous réserve d'autres surprises. Le nom même d'Abraham, donc, est attesté en Mésopotamie au début du deuxième millénaire sous diverses formes. Et bon, il y a quelques divergences de vues chez les historiens et les commentateurs spécialisés pour situer l'époque d'Abraham proprement dit. Personnellement, je suis tenté de la situer aux alentours de 2100 avant Jésus-Christ. Certains vont plus loin, mais décalent alors toute la chronologie dans la suite, ce qui est quand même assez problématique, mais ce sont des querelles de spécialistes. Mais donc, ça correspond à cette époque. Abraham, vous voyez, c'était les décomposés de mots qui se traduisent pour nous par Abraham. Le nom de Sarah se retrouve dans le terme Charatou. Le nom de Nakor, frère d'Abraham, se lit aussi dans les tablettes cunéiformes, Nakour, le nom d'une ville. Et même, on connaît une forme du nom Laban dans les trois syllabes d'un court document d'argile, Labaan. Ces noms, certes, ne se rapportent pas aux personnages bibliques eux-mêmes, mais n'est-ce pas extraordinaire de savoir que le rédacteur de la Genèse ne les a pas inventés, de savoir qu'ils étaient sans aucune équivoque utilisés dans la population sumérienne à l'époque des patriarches. Et je pourrais ainsi continuer ici. J'ai encore d'autres découvertes, donc tablettes scolaires, cahiers d'élèves, où le scribe en herbe s'essayait la main, non sans rature d'ailleurs. Au printemps 1931, le chef d'expédition, dans ses fouilles, trouvait dans une jarre la bibliothèque du maître, toute une collection de tablettes, les devoirs des élèves. D'un côté de la petite plaque d'argile, le modèle écrit par le professeur, de l'autre côté la copie, ou mieux, la reproduction de la main de l'étudiant. Dans un autre lieu de la région, au printemps 1933, nous avons nous-mêmes recueilli dans une école 70 cahiers d'élèves. L'école avait aussi ses instruments de travail, sa petite bibliothèque, ses dictionnaires, tout en argile. Sur le même bloc de terre était gravée une liste de synonymes. D'un côté, les mots sumériens, de l'autre, les mots sémitiques. Sur une autre plaquette, véritable syllabaire, toute une colonne de mots commençant par la même syllabe. Dans le coin d'un des dictionnaires antiques, cette annotation, propriété de la classe des garçons. Nos grandes bibliothèques publiques, avec leur cachet où le fatidique ne sort pas, n'ont donc rien inventé. Les bien doués, ceux qui ont réussi à se débrouiller dans la grammaire et l'orthographe, sont initiés aux mathématiques. Pour faciliter la compréhension de leur cerveau tout neuf, on leur remet des tables de multiplication ou de division, des tables pour extraire les racines carrées ou les racines cubiques, des tables encore pour convertir les fractions. Quant aux problèmes proposés à la sagacité des meilleurs, ils nous laissent rêveurs par leur complexité. Le scribe qui les énonçait se mettait quelquefois sous la protection de Nisaba, déesse de la science et des nombres. Les candidats n'avaient pas trop non plus d'une divinité pour les aider à en sortir. Tous d'ailleurs ne devenaient pas des mathématiciens. Dans les grandes familles, on recrutait les prêtres, les fonctionnaires, les soldats de l'armée de métier. La classe des hommes libres, entre guillemets, fournissait les artisans, les marchands, les laboureurs. Et au dernier rang venaient les esclaves. Je trouve que ça vaut la peine de jeter là un coup de lumière sur ce monde, cette société et cette cité qu'Abraham était appelé à quitter par ce va-t'en qui un jour a résonné si fort dans son cœur. Disons-le, répétons-le, Abraham a été appelé à quitter la sécurité matérielle, l'aisance, la facilité, le confort pour une vie difficile, une destination inconnue, un mode de vie différent, des valeurs différentes, avec à la base ce qui sera le fondement de sa vie tout entière, de sa vie pratique, l'impérieuse nécessité de dépendre de Dieu quotidiennement pour tout. Voilà notre programme. Quel que soit notre statut, le cadre de notre éducation, notre origine religieuse, l'état ou la situation sociale, l'importance du patrimoine familial, toutes ces choses, n'est-ce pas? De toute manière, dans ce Vatan figure cette dimension que je viens d'évoquer. Et c'est dans cette dimension que ce microscope va encore un peu plus en profondeur, n'est-ce pas, depuis le pays, en passant par la patrie, nous arrivons alors à la maison de ton père. Quitte la maison de ton père, ta famille. Abraham signifie père élevé. Il est un grand cheik sumérien. Il a de grands troupeaux. Il emploie des bergers. Le chapitre 13 l'indique clairement. Il a au moins 300 serviteurs nés dans sa maison, dit le chapitre 14 au verset 14, 318 très exactement. Il a 75 ans. Cela veut dire que pour son époque, il est dans la pleine force de la vie, puisqu'il ne mourra que 100 ans plus tard. Son épouse, Sarah, a 10 ans de moins que lui, 65 ans. Et il faut se souvenir aussi que la société d'alors était foncièrement basée sur la collectivité familiale, tribale. Les liens étaient extrêmement forts. On ne pouvait pas s'extraire facilement de ce système, de cette collectivité qui fait penser d'ailleurs encore aujourd'hui à certaines collectivités, qu'elles soient ethniques, surtout parfois même dans l'émigration. Je pense à mon épouse qui est d'origine polonaise et qui a grandi dans un milieu strictement polonais, avec église évangélique polonaise, etc. Et avec tout ce que ça signifiait, cette appartenance, cette identité liée à tout un tissu polonais implanté en Belgique. Alors quitter la famille, c'était pas rien. Quitter la famille, c'était quitter la sécurité familiale, les coutumes ancestrales, les divinités du foyer auxquelles on tenait, auxquelles on rendait un culte de manière très régulière, qu'on retrouvera d'ailleurs à Rome, n'est-ce pas, dans l'Empire romain, avec les lares et les pénates, et on a des récits des premiers siècles de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, les problèmes qu'ont rencontrés les disciples de Jésus-Christ, lorsque par exemple une femme se convertissait à Jésus-Christ, et qu'elle vivait dans un foyer dont le mari refusait obstinément la foi, et tous les problèmes qu'elle avait face simplement à ce culte quotidien devant les divinités du foyer. Combien elle en souffrait, combien elle était attaquée, combien elle était persécutée, incomprise, au point que le mari aurait parfois préféré qu'elle le trompe plutôt que de violer ainsi cette relation avec les divinités protectrices du foyer. Quitter la sécurité familiale, les coutumes ancestrales, les dieux du foyer, leur protection, l'enveloppe affective, quelque part, disons-le, c'était se désolidariser. Vous vous souvenez de ce texte que nous avons lu ce matin dans Matthieu 10, 34 à 39, et que je rappelais peu de minutes après notre étude à quelqu'un dans le cadre d'un entretien, parce que c'était exactement la situation à laquelle il était confronté dans sa propre vie. Matthieu 10, 34 et suivant à 39, que nous avons lu en d'autres termes dans les autres évangiles. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Et il faut toujours que nous nous souvenions d'une chose quand nous voyons le terme paix dans les Écritures, surtout bien entendu quand il est utilisé dans un sens positif, parce qu'il y a aussi toutes les fausses paix qu'évoquent les faux prophètes, n'est-ce pas, qui sont des valeurs creuses. Mais le terme paix, dans sa signification, bien que le Nouveau Testament ait été écrit en grec, n'est-ce pas, le terme paix n'a pas le sens du mot grec qui a donné le prénom français Irène. L'Irénée, c'est un sens trop faible pour qu'il soit retenu par Dieu dans le contexte des Écritures, dans la pensée de Dieu, dans la richesse de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Et en fait, au terme grec, on donne un contenu hébreu. Là, l'Irénée grec, en fait, c'est le shalom hébreu qui évoque une plénitude, mais dans tous les sens possibles et imaginables, avec toute la sécurité qu'elle peut contenir, toutes sortes d'aspects. C'est un terme extrêmement riche, mais qui est toujours fondé sur la justice. Non pas une paix au rabais, non pas une paix sur la base de compromis, mais étroitement associée à la justice. Il n'y a pas de paix authentique sans justice, sans la justice de Dieu vécue dans notre vie. Et cela explique certains textes du Nouveau Testament rechercher la paix avec tous, mais aussitôt après, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ne recherchez pas une paix à la grecque. Recherchez une paix qui ne soit jamais dissociée d'une croissance dans la sainteté sur la base de votre justification. Vous avez été justifié, c'est un acte juridique acquis à la croix, c'est fait pour l'éternité. Maintenant, sur cette base-là, vous croissez dans une sanctification qui, elle aussi, vous est déjà acquise. Vous êtes déjà un peuple sanctifié, mais maintenant, mettez votre sanctification en action dans une croissance progressive ici-bas sur la terre. Alors, je le dis parce que c'est important ici. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, y compris dans tous ces aspects de sécurité, etc. Non, non, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée, plus particulièrement le glaive, parce qu'il y a un autre terme utilisé dans le Nouveau Testament. Et ici, ce terme est en particulier parfois utilisé, notamment dans Romains 13, pour évoquer la peine de mort. C'est-à-dire qu'il est question ici de la persécution qui peut amener quelqu'un à être traîné devant les tribunaux, enfermé dans un cachot et condamné à mort. Ça va jusque-là, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, le glaive, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime, qui affectionne, nous n'avons pas le terme agapao ici, mais celui qui a donné philanthropie, théophile, etc., qui est plus centré sur l'affectif de l'amour, n'est-ce pas? Alors, il est ici, n'est-ce pas? Celui qui affectionne son papa. terrible de le dire en ces termes, où sa maman, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui affectionne son fils ou sa fille, et là le terme fils aussi est très important, et plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je suis impressionné par la loyauté du Seigneur Jésus dans ce que nous pourrions appeler sa manière d'évangéliser. L'évangile selon Jésus-Christ, comme l'a écrit quelqu'un. Cette loyauté qui n'escamote pas les vérités pourtant tellement difficiles à dire, et croyez-moi, c'était beaucoup plus difficile à dire par Jésus que par n'importe lequel d'entre nous. Jésus a averti ses disciples des tribulations qui les attendaient dans leur propre famille. Je suis persuadé que si notre évangélisation revêtait ce caractère, peut-être effectivement que certaines de nos églises seraient plus petites, là où d'autres seraient plus importantes d'ailleurs. Parce que Dieu bénit la loyauté et la fidélité à sa parole. Mais ce que je crois en tout cas, c'est que nos églises seraient plus solides. Bien plus solides qu'elles ne le sont actuellement. Oh, et je le dis sans sentiment d'orgueil, je me sens parfaitement solidaire de l'Église de notre temps et j'ai ma part de responsabilité, je le crois. Il y a parfois l'heure du choix douloureux entre ce que la famille demande, voire ce qu'elle exige, et ce que Dieu désire et ordonne avec amour. Et nous l'évoquions justement dans un entretien. Par rapport, par exemple, à la question du baptême. Et je pense ici à notre ministère en Bretagne, où généralement, au-delà de la nouvelle naissance qui a mené dans son sillage pas mal de troubles dans certaines vies de famille, lorsqu'arrivait l'heure du baptême, pour tel ou tel membre isolé dans sa famille, seul croyant, surtout quand il s'agissait de l'épouse, ou parfois aussi de l'épouse. Nous avions dans notre église un époux dont la femme, dans son catholicisme intégriste, était d'une férocité à son égard. Mais nous en avons vu des larmes. Nous en avons entendu des menaces. Je me souviens même, devant une menace de divorce, et elle n'était pas faite à la légère, par un commerçant bien connu de la ville de Paimpol où nous étions, lorsque son épouse a vraiment exprimé le désir d'être baptisée après une régénération manifestement très très claire, radicale, l'a menacée très très nettement de divorce, et ça a pris de telles proportions que finalement il nous a semblé nécessaire de manifester notre solidarité avec cette épouse en allant voir son mari pour tenter, en tout cas, de pouvoir tant soit peu lui expliquer la chose et combien ça a été difficile. Je dirais que dans mon propre cheminement, je me souviendrai toute ma vie d'une expérience difficile vécue à l'âge de 14 ans déjà. C'est dans ma 11e année de vie, ici-bas, que, à l'occasion d'un camp de scoutisme pour les enfants, ce qu'on appelle les louveteaux, en Bretagne, dans le fin fond de la Bretagne, à une bonne centaine de kilomètres de Paimpol, donc ça n'avait rien à voir avec l'avenir, même si Dieu nous y a replacés bien des années plus tard, c'est là-bas que, dans le cadre d'un culte durant ce camp scout, où le prédicateur était aussi le pasteur de l'église réformée à laquelle nous appartenions à cette époque, mais qui était un homme de Dieu, converti véritablement à Jésus-Christ, qui avait fait, curieusement, l'Institut biblique Emmaüs à une époque ancienne, qui n'a jamais été reconnu comme pasteur officiellement, parce qu'on considérait que n'ayant pas fait la faculté de théologie de Strasbourg, il ne pouvait être qu'un pasteur au rabais. Alors que je suis persuadé que des centaines d'enfants en âge de comprendre et de se décider personnellement ont découvert la beauté de Jésus-Christ et se sont tournés vers lui du temps de son ministère. Il a été pour moi, avec son épouse, une famille de remplacement, puisque j'ai perdu ma maman à l'âge de 6 ans et demi, après 8 ans de tuberculose, et j'ai vécu ces temps de manière douloureuse, mais belle, parce que maman était convertie à Jésus-Christ, alors que mon père ne l'était pas encore, tout en étant un bon religieux protestant qui lisait sa Bible régulièrement, hein, comme quoi lire la Bible n'est pas le tout, encore faut-il franchir le pas, n'est-ce pas ? Et la chambre de ma maman était un lieu d'accueil et d'encouragement pour ceux qui venaient la voir. Et j'étais le dernier de ma famille, nous étions 4 enfants, le plus petit. J'ai donc vécu à son contact étroit, au point d'en faire d'ailleurs une primo-infection en tuberculose, qui m'a valu bien des problèmes par la suite. Et j'ai été très touché par le témoignage de maman à ce petit âge qui était le mien. Et je suis absolument persuadé que cette chère maman priait pour ses enfants et pour son petit bout de chou qui était si souvent à côté d'elle. Et je crois que, à cause d'elle, bien sûr par pure grâce, dans ma 11e année, ce dimanche-là, alors que ce bien-aimé frère qui est auprès du Seigneur apportait un magnifique message d'évangélisation pour les enfants que nous étions, j'ai été percuté dans mon cœur d'enfant de plein fouet. Et j'ai réalisé qu'il fallait que ma vie soit à Jésus-Christ. Et l'occasion nous a été donnée immédiatement dans la suite du message de l'exprimer. Et je l'exprimais simplement dans mon langage d'enfant. Et bien entendu, c'était aussi l'époque, surtout à cette époque dans l'histoire, où lorsque, en tout cas dans le système français d'éducation scolaire, on entrait dans ce qu'on appelle la sixième, puisqu'on part de la sixième dans les collèges et lycées pour aller vers le bac ou la maturité, comme on dit en Suisse, n'est-ce pas ? C'est donc un tournant entre la partie primaire scolaire et la partie secondaire. Mais à l'époque, pour entrer dans cette classe qui indiquait tout le changement, une sorte de promotion même dans l'esprit de l'enfant, il fallait passer un concours, peu le passer, il y avait un tri sur le volet qui était fait, et mon père, pour remplir le papier qui m'autorisait à passer le concours, m'a dit, mais Maurice, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Parce que tu peux aller simplement au certificat d'études à 14 ans, et puis prendre un travail après, une formation. Ou sinon, si tu vas là, ça veut dire que tu voudras aller plus loin. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses? Je dis, mais tu sais bien, papa, je veux devenir pasteur. Je n'avais jamais eu depuis ce moment où Christ m'a appelé au salut, je n'avais jamais eu d'autre pensée. Dans mon cœur, je ne pouvais pas envisager autre chose. Si bien que, de la manière la plus claire qui soit, je parlais de mon bonheur un jour d'être pasteur, comme d'autres parlent aisément du match de foot qu'ils ont regardé jouer la veille ou de la fin du Tour de France dimanche dernier à Paris, n'est-ce pas ? Et nous étions rares à cette époque en tant que converti à Jésus-Christ, en tout cas connu, en Lorraine, dans cette région, qui a connu une évangélisation plus poussée beaucoup plus tard. Et je me souviens que, en tant que réformé et de surcroît converti à Jésus-Christ, quand je passais avec ma famille, ce qu'il en restait, sur un trottoir, les catholiques intégristes, voire le curé, passaient sur l'autre trottoir. Dans l'école primaire où j'étais seul, protestant, mais alors engagé, mes camarades m'enfermaient dans les toilettes, les WC de l'école, tambourinaient sur la porte en criant « païen, païen, païen », n'est-ce pas ? Oh, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et c'était le brave instituteur laïque, comme on dit si souvent aujourd'hui, qui venait à mon secours pour me sortir de ma prison, n'est-ce pas ? Et puis bien entendu, cela s'est su dans ma famille de plus en plus élargie, et à l'âge de 14 ans, à Strasbourg, non loin de la gare centrale de Strasbourg, dans un grand parc, je me vois encore assis sur un banc dans ce parc, flanqué à ma droite de ma belle-mère, parce que mon père s'est remarié quelques années après le décès de maman, et à ma gauche d'une de mes sœurs. Et toutes deux étant liguées avec une insistance farouche, opiniâtre, pour essayer de me faire changer d'idée quant à cette orientation tellement bizarre et suicidaire qui me conduisait à souhaiter devenir pasteur. Et je me souviens de certains des arguments concernant la carrière que je pouvais avoir par la suite, l'argent que je pouvais gagner, etc. Et cette sorte de manière de tourner le jeune homme de 14 ans que j'étais en ridicule parce qu'il osait à son âge aller dans cette direction. Je bénis Dieu de ce qu'il m'ait gardé et profondément soutenu durant ces heures où il a fallu tenir tête. Et oui, nous le savons de nos décisions, des choix que Dieu nous demande de faire à sa gloire, de nos décisions peuvent jaillir la discorde, la mésentente, la souffrance intérieure due à l'incompréhension. Placer Jésus-Christ avant les droits familiaux divise. Alors peut-être faut-il préciser entre parenthèses, et vous le savez certainement, qu'il est des mouvements sectaires d'inspiration chrétienne qui ont abusé de ces textes que nous avons lus dans les évangiles pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Je pense à ce qu'on a appelé pendant un certain temps les enfants de Dieu, puis la famille d'amour, finalement même attaqué en justice, précisément parce que on incitait les jeunes, les enfants, même mineurs, à haïr leurs parents, à avoir le courage de prendre une position extrême de haine pour fusionner en quelque sorte avec la secte dans ses pratiques plus que douteuse, scandaleuse, y compris dans le domaine d'une sexualité déviée et abusive, n'est-ce pas ? Alors, soyons clairs, de toute évidence, ces textes ne disent pas ce que certains leur font dire, et j'aime justement qu'ils soient expliqués. C'est vrai que parfois le texte est radical dans le grec, mais Jésus avait l'art, tout comme dans l'Ancien Testament, de certaines formules fortes qui étaient des électrochocs nécessaires pour conduire les auditeurs qui étaient là, parfois dans leur scepticisme ou enfoncés dans leur tradition, enfermés dans leurs œillères, à être obligés de se poser des questions, comme jadis les prophètes, comme Ézéchiel, Jérémie, qui, dans certains domaines, devenaient des signes et des signes qui véritablement étaient choquants
pour les cœurs endurcis de leurs époques. Mais nous n'avons pas le droit de nous appuyer sur un texte qui utilise une formule qu'on appelle idiomatique, qui appartient à une langue propre, parce que certaines langues n'ont pas les superlatifs que nous avons, n'ont pas les comparatifs que nous avons, et c'est le cas de l'hébreu, par exemple, n'est-ce pas ? Donc, il y a parfois des formules qui sont très fortes, mais nous n'avons jamais le droit de nous arrêter sur un seul texte pour l'interpréter de manière isolée, lui faire dire ce que nous avons envie de lui faire dire, alors que nous avons à côté, dans l'ensemble des Écritures, des dizaines de textes sur le même sujet qui nous donnent l'équilibre de la pensée de Dieu. Et il y a énormément de déviations, de troubles, de schismes, de ruptures, de conflits dans les églises qui viennent aujourd'hui précisément de ce qu'on a une approche de la Bible tellement parcellaire, tellement hors contexte pour pouvoir justifier parfois les choses les plus scandaleuses qui soient, n'est-ce pas ? Alors je le dis au passage, pour que nul d'entre nous n'en arrive, et je ne pense pas que ce soit votre cas, n'est-ce pas ? Mais quand vous faites un camp de jeunes, une convention qui touche beaucoup plus de gens plus jeunes, c'est d'une importance capitale, parce qu'il arrive parfois que dans sa soif de marcher de manière radicale avec le Seigneur, le jeune en arrive à avoir une attitude d'arrogance, de refus de soumission à l'autorité des parents, n'est-ce pas, qui peut aller très loin. Et c'est là que le rôle de l'Église, des anciens en particulier, des serviteurs de Dieu, des aînés, est capital pour aider le jeune à vivre dans la volonté de Dieu, à ne pas brûler les étapes dans cette sorte d'émancipation qui est le résultat de la rencontre avec Jésus-Christ. Alors cette parenthèse étant refermée, disons-le, je le répète, placer le Christ avant les droits familiaux divise, d'où une souffrance profonde, un coup d'épée dans nos affections propres. Cette démarcation, cette séparation, cette prise de position que Dieu demande, et qu'il demandera, je le dis, ne croyez pas que nous restons stationnés à la nouvelle naissance. Nous avons parlé du baptême qui se situe au-delà de la nouvelle naissance, mais il y a tant d'autres étapes. Pour certains, c'est à l'heure de leur vocation, d'un appel au service particulier, d'un appel à un service missionnaire outre-mer, où l'on va être séparé des siens par des milliers de kilomètres, etc., n'est-ce pas ? Il y a tant de circonstances dans le cheminement du disciple de Jésus-Christ, où d'étape en étape, il va être placé dans des situations de ce genre. Tellement difficiles à vivre. Mais cette démarcation, cette séparation, cette prise de position que Dieu demande, qui est voulue par lui, l'est pour la destruction de l'élément charnel et souvent égoïste de nos affections. Je dois dire que c'est une chose importante que l'apprentissage de cette destruction de l'élément charnel et égoïste de nos affections. Nous apprenons peu à peu dans la vie de la foi à ne plus aimer pour nous-mêmes ce qui nous entoure. Nous apprenons à les aimer d'un autre amour, de l'amour d'en haut, d'un amour plus pur, plus désintéressé. Nous apprenons à aimer plus par Christ. Nous apprenons un amour plus lucide, plus sage, plus détaché, plus pur. Et là aussi, nous avons vécu jusqu'ici, mon épouse et moi, dans un domaine précis de notre marche avec Dieu, une véritable écharde à cet égard. Depuis une quinzaine d'années. Puisque cet enfant de la promesse, cet enfant de la grâce que Dieu nous a donné le premier en 1972 est le seul de nos enfants qui ne soit pas au Seigneur. Les trois autres marchent à fond avec le Seigneur, mais pas notre aîné. qui a pourtant été éduqué de la même manière que les autres, mais que nous avons vu prendre personnellement et librement, clairement, position. Après, je dirais, toute une gestation spirituelle qui, à nos yeux, Bible en main, constatation aussi faite, n'a pas abouti jusqu'ici à ce que nous voulons appeler une nouvelle naissance. Et cela s'est traduit tout au long des années, bien sûr de son côté par bien des souffrances, dont des cancers, avec rémission, un cancer actuellement à nouveau en cours, et tant d'autres choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette quinzaine d'années a été, en tout cas pour nous, dans la souffrance, dans les questions que nous avons posées à Dieu, cette période a été jusqu'ici une période d'étrange fécondité. C'est une des manières dont Dieu a éduqué notre foi nouvelle, notre amour. Nous avons dû commencer à un moment donné à réaliser qu'il fallait que nous aimions nos enfants d'une autre manière. De cet amour inconditionnel qui ne vient pas tout seul. Parce que l'amour du disciple de Jésus-Christ n'est pas une sorte de sublimation de l'amour que nous avons en dehors de Christ avant notre conversion. Certains subliment cet amour, c'est-à-dire qu'ils le portent à un niveau un peu plus élevé, mais finalement, il y a toujours les mêmes virus à l'intérieur. C'est un amour nouveau. Qu'est le fruit de l'esprit de Galates 5:22. C'est le fruit de l'esprit. Et c'est cet amour-là qui contient les chromosomes, notamment du caractère désintéressé et inconditionnel de l'amour, de la persévérance, de la ténacité de l'amour au fil des années qui passent, alors que on aimerait tant que ça change plus tôt, parce qu'il y a des dégâts pendant ce temps. D'une autre manière d'aborder ce que nous aimons, parce que nous sommes obligés de chercher devant Dieu. Mais Seigneur, comment devons-nous faire? À quel moment devons-nous parler? Quand devons-nous nous taire? Quand devons-nous désapprouver? Quand pouvons-nous approuver? Comment faire pour recevoir sans compromis? Comment faire pour ne pas rejeter? Comment faire pour être ferme dans l'amour sans être dur? Tout cela, ce sont les questions qui sont issues, n'est-ce pas, de ces situations. Donc, nous ne sommes pas les seuls, bien entendu, chacun a son histoire. Mais considérer nos échardes dans ce domaine, sous cet angle, est une aide extraordinaire dans ce combat pour nos enfants qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que ça consiste à ne plus uniquement voir le côté négatif de cette situation, même si cela fait mal. Et lors du premier coup de téléphone que notre fille aînée nous a envoyé après 16 mois de silence, et c'était à mon retour de clinique au mois d'avril, il a fallu ça. J'ai dû à un moment lui dire, mais tu sais ma chérie, tu sais que nous aurions pu ne plus jamais nous voir sur cette terre. Parce que, à vue humaine, ça pouvait être la fin. Et je l'entends encore me dire, mais papa, je n'avais pas réalisé. Mais pouvoir voir, n'est-ce pas, le côté positif, le fait que Dieu tient cette situation de séparation en main. Qu'il ne l'ignore pas un seul instant, qu'il en connaît tous les tenants et les aboutissants, qu'il souffre avec nous, en solidarité avec nous, en amour avec nous, et qu'il travaille à rendre notre vie plus féconde, plus riche de sa paix. Mes amis, ça vaut la peine. Faire de ces situations que nous pourrions appeler ennemies, des situations amies. Seigneur, je veux accueillir cette situation plutôt que de me battre du matin au soir avec elle. Seigneur, en attendant ce salut que je te réclame depuis des années, je te remercie pour la fécondité de cette situation. Parce que pendant ce temps, tu travailles. Et combien Dieu a travaillé dans le cœur de mon épouse, dans mon cœur, et puis dans le cœur de nos trois autres enfants, parce que paradoxalement, là où nous avions peur que le témoignage de leur aîné les conduise à emboîter ses pas, hein, c'est le problème des aînés parfois. Au contraire, nos trois autres enfants ont été confortés dans leur désir de marcher à fond avec Christ parce qu'ils ont, par la grâce de Dieu, su voir le côté terriblement destructeur d'une telle attitude. Et leur souffrance, qui est encore leur souffrance aujourd'hui, les a beaucoup aidés dans leur propre maturation spirituelle et de caractère. J'aimerais ici anticiper, dans une étude que nous ne ferons pas durant ce cours, puisqu'il s'agit de Genèse 22. Mais si nous avions abordé Genèse 22 et l'épreuve suprême, le septième test de la foi, je vous aurais notamment lu deux extraits de chapitres très intéressants qui s'applique à cette expérience du test suprême de la foi d'Abraham. Le premier texte étant de cet homme de Dieu dont j'ai tellement et j'apprécie tellement les écrits, homme de Dieu américain qui est auprès du Seigneur depuis les années 60 à peu près, qui a eu un message, je dirais, de type prophétique dans le sens noble du terme, exhortatoire, message de sentinelle au peuple de Dieu, Tozer. On n'est pas forcément d'accord avec tout sur son approche du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le plus important parce qu'il a une approche d'une telle richesse, d'une telle profondeur dans certains domaines des plus importants. Et il évoque ce sacrifice d'Isaac et il écrit ceci dans un de ses livres. Abraham était vieux à la naissance d'Isaac, assez vieux pour être son grand-père, et l'enfant devint aussitôt les délices de ses vieux jours et l'idole de son cœur. Dès l'instant où il se pencha pour prendre maladroitement le petit être dans ses bras, il devint l'esclave de son fils dans un amour ardent pour lui. Dieu prit la peine de souligner la force de cette affection. Il n'est pas difficile de comprendre cela. L'enfant représentait tout ce qu'il y avait de sacré aux yeux de son père, les promesses de Dieu, l'alliance, l'espoir de toutes ces années, le long rêve messianique. En le regardant grandir, de l'enfance à l'adolescence, le cœur du vieil homme était de plus en plus mêlé à la vie de son fils, jusqu'à ce que finalement leur relation prît un tournant dangereux. C'est alors que Dieu entra en scène pour sauver le père et son fils des conséquences d'un amour excessif. Et vous vous souvenez de Genèse 2, 1 ? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Cette insistance de Dieu pour montrer le type de relation toute particulière qui existait entre ce père et son fils unique. Écoutez maintenant les remarques de Dietrich Bonhoeffer, que j'en ai déjà signalé un autre texte, n'est-ce pas, concernant la descente maintenant de la montagne, après l'intervention souveraine et à à l'atome de temps près, n'est-ce pas, alors que la main foudroyante qui va tuer la vie est prête à égorger l'enfant sur l'autel, est arrêtée par l'ange. Bonhoeffer écrit ceci. Abraham descend de la montagne avec Isaac, comme il y est monté. Mais toute la situation a changé. En termes du Nouveau Testament, Abraham avait mis sa précieuse relation avec Isaac sous la seigneurie de Christ, hein, en termes du Nouveau Testament. Elle était désormais en Christ. Christ avait pris place entre le Père et le Fils. Abraham avait tout quitté, suivait Christ, et alors qu'il marche sur ses traces, il lui est permis de retourner dans le monde et d'y vivre comme il l'avait fait autrefois. Extérieurement, le tableau est le même, mais toutes choses sont devenues nouvelles, tout a dû passer par Christ. Mes amis. Et voyez-vous, j'aime à dire que le Seigneur Jésus, dans sa gloire, à la droite du Père, celui qui intercède pour nous, il nous comprend. Il nous comprend dans ces luttes que nous pouvons chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, connaître dans le domaine qui nous intéresse depuis ce matin. Il nous comprend, il compatit. Pourquoi ? Parce que quand le Christ s'est dépouillé, s'est vidé de sa gloire, n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec le Père sur la terre, il a été confronté, lui, fils de Dieu, fils de l'homme, au même problème. Dans sa relation avec Marie, qu'il a portée dans son sein, combien il a dû lui être difficile de lui dire parfois, avec une politesse exquise qui n'apparaît pas forcément dans nos textes, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'être incompris, voire certainement méprisé et moqué par ses frères, entre guillemets, quand il lui disait dans Jean 7, mais puisque tu veux faire la vedette, hein, puisque tu tiens tellement à la gloire, mais qu'est-ce que t'attends pour aller là où il y a du monde, hein, au zénith à Jérusalem? Là, tu auras des spectateurs, tu auras des files d'attente avec des milliers de billets d'entrée. Sous-entendu, et puis si ça marche, ta gloire, elle retombera sur nous, et c'est ça surtout qui est intéressant. Et Jésus de répondre, mais non, je ne suis pas de ce monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et parce que je ne suis pas de ce monde, je ne peux pas raisonner de cette manière. Alors vous, allez. Moi, je ne vais pas, pour le moment, à la fête. Et il y ira un peu plus tard, mais en catimini, avec un objectif précis, différent. Et puis vous pensez à Marie et aux frères qui le font appeler alors qu'il est en plein ministère d'enseignement, d'amour, pour lui faire dire, écoute, ta famille, elle t'appelle. Hein? Et il y a là certainement beaucoup de sous-entendus. C'était gênant, c'était quelque peu une honte que cet exhibitionniste dans le domaine religieux, ce faiseur de miracles, qu'on ne pouvait pas comprendre. Et Jésus de devoir dire, mais ma mère, mes frères, mais qui est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ça n'était pas facile pour lui. Et vous le savez, il a fallu qu'il aille jusqu'à Golgotha et qu'il sorte du tombeau et qu'ils soient ravis dans la présence du Père à l'ascension, pour qu'alors les siens se réunissent dans la chambre haute à Jérusalem pour attendre la réalisation des promesses faites par Jésus avant de quitter cette terre. Il a fallu la souffrance, le renoncement, la mort, la résurrection. Mes amis, il nous comprend. Et je bénis Dieu pour sa sympathie, c'est-à-dire pour le fait littéralement qu'il souffre avec moi. Il fait équipe avec moi, avec mon épouse, dans notre cheminement, comme il le fait avec vous, même dans ces moments où vous dites, Seigneur, il y en a assez. Je bénis Dieu de ce qu'il soit possible de lui dire à lui sans le choquer, il y en a assez. Parce que vous savez que parfois, quand on le dit même à des croyants bien intentionnés, on peut prendre un bon savon, si ce n'est pas plus. Parce qu'hélas, trop souvent, comme quelqu'un l'a dit avant moi, l'Église a été le lieu dans lequel on a achevé les blessés. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous tenez le coup. Ça va. Est-ce que vous croyez que je peux prendre encore quelques minutes ou est-ce que vraiment c'est trop ? On y va. Je voudrais alors simplement ici montrer que le problème d'Abraham, de manière plus précise, puisque Genèse 12 présente, mais de manière indirecte, le problème d'Abraham dans ce domaine. Vous savez, la Bible est pour les chercheurs de Dieu. On peut être enfant et chercheur de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui le cherchent. Tout d'abord pour le trouver initialement, je l'ai trouvé, bonheur ineffable. On ne peut pas vivre la mode de la recherche permanente jusqu'à la fin de sa vie comme on le fait dans certaines approches d'un christianisme généralisé. Je suis en recherche. C'est la meilleure manière de dire « je ne veux surtout pas trouver ». Mais il existe une recherche légitime, celle qui fait que quand on l'a trouvé, on continue à chercher pour aller plus loin. Et on va chercher jusqu'à la fin de sa vie. Je suis encore un homme en recherche pour mieux le connaître. Et la Bible, pour le disciple de Jésus-Christ, c'est le livre du chercheur. Il existe un commentaire du chercheur. Et c'est pour cela qu'il y a des textes qui cachent des pépites de vérité spirituelle fantastiques, mais que l'on ne détecte pas au premier abord. Et il y en a une ici. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et au verset 5, Abraham prit Sarai, au même déjà fin du verset 4, hein, l'autre partie avec lui, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Lorsque nous associons ces deux versets, nous en déduisons que l'appel d'Abraham par l'Éternel se situe à Charan, c'est-à-dire tout à fait au nord de l'Euphrate, bien loin d'Ur. Or, il se trouve que nous avons d'autres textes dans les Écritures qui donnent quelques précisions à cet égard, qui ne vont pas tout à fait dans ce sens, et qui pourraient paraître énigmatiques. Nous en avons lu un ce matin, dans Acte 7, toujours le fameux discours d'Étienne, Acte 7, verset 1er et suivant, verset 2, on va prendre, « Étienne répondit au souverain sacrificateur, « Hommes, frères et pères, écoutez, Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était à Charan, en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, dit le texte. Avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Ça veut dire que dans Genèse 12, verset 4, nous en sommes déjà à la deuxième étape dans la foi authentique d'Abraham. C'est pas la première. Vous voyez, le texte le dit très clair. Et c'est de là qu'après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant, ce qui rejoint au chapitre 11, verset 31, nous l'avons lu volontairement plusieurs fois, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, voyez, pour aller jusqu'au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils y habitèrent, et puis stop. Il y a là un événement, il y a là un décès. Le décès du papa. Et il n'y a pas que ce texte qui va dans ce sens avec Acte 7, mais vous avez notamment Genèse 15, 7 que nous avons lu, lorsqu'il est dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Chaque fois qu'il y a un rappel de la première caractéristique de la foi à sa naissance, c'est Ur qui est cité d'abord. Et nous trouvons la même chose dans Néhémie 9, 7, où il est dit que Dieu l'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Il y a encore un autre élément important qui n'apparaît pas dans le texte français, sauf, et j'en bénis Dieu, dans certaines versions. Il se trouve que l'hébreu, en tant que langue, dans l'usage de la conjugaison des verbes, a une élasticité que nous n'avons pas dans la multiplicité des temps dans notre conjugaison. Et nous avons la possibilité ici, dans Genèse 12.1, de traduire légèrement différemment. Ça ne va rien changer au plan doctrinal, etc., mais ça va corroborer, confirmer ce que nous lisons dans les autres textes, dont Acte 7. Si vous prenez, par exemple, une traduction de Jean Calvin, et un commentaire de Jean Calvin sur la Genèse, vous verrez qu'il rédige de cette manière, l'Éternel avait dit à Abraham. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas une violation au plan conjugaison. D'ailleurs, une de nos vieilles versions, très littéraliste, n'est-ce pas, la version d'Arby, le rend ici aussi. L'Éternel avait dit à Abraham. Nous avons comme cela quelques versions qui donnent cette petite précision. C'est-à-dire que c'était déjà quelque chose qui avait eu lieu plus tôt. Et que l'on rappelle ici qu'il y ait éventuellement eu à Charan un rappel même de la part de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui se répète. Précisément, quand on tombe en panne, il arrive un moment où même à plusieurs reprises, Dieu redit la même chose. Écoute, souviens-toi qu'à tel endroit et à tel moment, je te dis ceci. Il y a un problème qui n'est pas réglé encore. Alors je te le répète maintenant. Alors ça peut être soit le rappel du premier appel, ou bien encore le fait que Dieu ait redit dans les mêmes termes ce qu'il avait dit une première fois. À Ur, à Abraham. Et puis nous l'avons vu dans Genèse 11, 31, c'est Térak qui prend Abraham avec lui. C'est la hiérarchie dans l'autorité patriarcale ancienne de la région qui est respectée. Il semble que là, quelque part, le père n'est pas du tout hostile à ce que le fils parte dans cette direction. Il semble tout à fait prêt à prendre même la direction de l'affaire, et c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et là, c'est intéressant. Par rapport à ce qu'on sait de cet itinéraire entre Ur et Charan. C'était pas n'importe quel itinéraire. J'ai là, sous la plume toujours de mon rabbin André Neher, cette indication très intéressante, Ur ou Ur et Haran ou Charan sont, vers la fin du troisième millénaire, deux puissantes cités de l'Empire sumérien. L'une et l'autre sont des capitales du culte du dieu lunaire, du dieu lune, Nannar. Et l'intense religiosité des Sumériens s'est ingéniée à créer dans les deux centres un véritable commerce d'objets cultuels, très comparable à celui que connaissent les grands lieux modernes de pèlerinage en pays chrétien ou musulman, où on vend des médailles, des statues, de l'eau bénite à gogo et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Et André Neher ajoute, le commerce de la laine y est également très développé et la route d'Ur à Charan constitue la grande voie du trafic entre le golfe Persique et les autres régions d'Asie mineure. Si, comme l'indique la situation ultérieure d'Abraham et de ses descendants, les Terakites, donc, les descendants de Terak, étaient éleveurs de moutons, si par ailleurs, conformément à une notation, une indication du Midrash, c'est un écrit qui surtout interprète l'écriture dans la pensée juive, donc parfois en allant même extrêmement loin dans ses interprétations, mais donc si par ailleurs, conformément à la notation du Midrash, cadrant parfaitement avec les données de l'époque, Terak était marchand d'idoles, la migration des Terakites s'explique aisément par des causes purement économiques. Comme si quelque part, Terak, quand Ur lui a sans doute dit « Tu sais papa, je vais te quitter parce que moi, les idoles, pas d'accord, je connais, je découvre le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, et il me donne un ordre, et je ne peux pas faire autrement que de partir, et je crois qu'il va me conduire étape après étape dans un pays qu'il me promet, avec une bénédiction, une descendance extraordinaire. Je pense qu'il lui a raconté tout ça. Et puis je peux imaginer, je me trompe peut-être, mais je peux imaginer Terak qui finalement, peut-être après un moment assez difficile, même après aussi un long temps de réflexion, de dire à Abraham, écoute, après tout... D'accord, je te donne mon feu vert et je pars même avec, parce que tu le sais, c'est une route qui m'intéresse beaucoup. Je vais faire du commerce. Moi, je vais en profiter. On va garder l'unité familiale et moi, tout au long du voyage, eh bien, je vais m'occuper de vendre, d'acheter, etc. Je vais continuer ma vie comme je la vis actuellement. J'ai là un extrait d'un autre ouvrage, très intéressant à cet égard, qui va dans le même sens, là même où vécut Abraham, à Ur, dans le pays de Sumer, le dieu Sin. Alors d'un côté vous avez Nannar, de l'autre Sin, et en fait c'est vrai que parfois on trouve d'ailleurs les deux mots, le dieu Nannar-Sin, c'était la même chose, était adoré comme l'une des principales divinités de la ville. Ur était le premier sanctuaire de cette divinité. Après Ur venait Charan, au nord du pays, et ce fait n'est pas dénué d'intérêt lorsque l'on sait que d'après la Bible elle-même, les parents d'Abraham étaient idolâtres. Cela nous l'avons lu, vous vous souvenez de Josué 24 par exemple, n'est-ce pas ? L'archéologie a révélé la route suivie par le clan d'Abraham, ou plutôt par celui de son père, car c'était alors l'ancêtre qui dirigeait toutes les activités du clan et fixait les itinéraires. Cette route d'Ur à Charan, suivie par Abraham d'après la Bible, était précisément une route de pèlerinage jalonnée de sanctuaires dédiés au dieu Sin. Voilà qui rend plus plausibles les affirmations de la Bible, de la tradition juive, et de Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est un historien juif qui a travaillé au service des Romains, il était d'ailleurs de famille pharisienne, et il nous a laissé des ouvrages assez importants. Moi j'ai dans ma bibliothèque un énorme ouvrage. Bon, on ne peut pas le prendre à la lettre dans tout, parce qu'il y a ici et là des exagérations, mais pas mal d'éléments très intéressants. Et donc, on le prend comme référence, et selon lesquels le père d'Abraham idolâtres, étaient de plus fabricants et marchands d'idoles. Ils devaient vendre de sanctuaire en sanctuaire sur cette route des pèlerinages les statuettes ou les amulettes dédiées au dieu Sin, à la manière des marchands d'objets de piété à Lourdes ou en d'autres lieux de pèlerinage et de commerce. Alors, peu importe qu'il y ait dans ce que je viens de vous expliquer une part plus ou moins importante de vérité, la question de fond reste la même. C'est qu'à un moment donné, notre ami Abraham, dans l'aube de sa foi, a été en panne. Il s'est arrêté dans son cheminement à Charan jusqu'à la mort de son papa. Peut-être qu'effectivement, à la mort de son papa, Dieu lui a dit, écoute, rappelle-toi ce que je t'ai dit à Ur, il faudrait peut-être que tu te remettes en route, je n'en sais rien, puisqu'on peut traduire le texte de deux manières, mais le problème est là parce que Dieu lui avait pourtant dit, quitte ta famille. Va dans le pays que je te montrerai. Et on peut là aussi se poser la question, est-ce que Térak à un moment donné a hésité, s'est dit, je vais peut-être quand même faire une petite partie de cheminement, même spirituel, aux côtés d'Abraham. Je vais essayer de voir si ça vaut le coup, si son truc est rentable. Vous comprenez? Mais une fois qu'il était installé à Charan, peut-être que le commerce marchait très bien, peut-être que ce qu'il lisait dans le tout jeune témoignage d'Abraham lui déplaisait à quelque part, parce qu'il voyait qu'il y avait chez Abraham un radicalisme pour l'avenir, n'est-ce pas? Que ça allait beaucoup trop loin. Alors bon, il s'est contenté d'aller de Ur en Chaldée jusqu'à Charan et on suivait l'Euphrate, n'est-ce pas? Cette route de pèlerinage suivait l'Euphrate, c'est-à-dire qu'il a fait ce que nous évoquions ce matin, il a été continuellement à la lisière, sans jamais vouloir prendre position. Donc il a fait jusqu'à un certain point un certain nombre de gestes qui ressemblaient aux gestes d'Abraham. Il a cheminé pendant un certain temps comme Abraham, il a cheminé avec Abraham, mais une fois qu'il était à Charan, il a estimé qu'il ne valait pas la peine d'aller plus loin avec son fils. Alors nous allons volontairement nous arrêter ici, ce qui nous permettra demain matin d'en tirer un certain nombre d'enseignements une fois de plus pour nous, parce que ce n'est pas pour rien que c'est dans les Écritures. Et puis je suis très heureux de terminer cet aspect demain matin, parce que nous aurons suffisamment de temps pour voir la quatrième caractéristique. Parce que la quatrième caractéristique fondamentale de la foi est très importante pour nous encourager dans ce processus de la séparation, avec tout ce que cela peut nous coûter dans le port personnel quotidien de la croix et le renoncement à soi-même. Nous avons vu aujourd'hui dans ces deux études quelque chose qui nous porte à réfléchir, qui nous remue dans notre être intérieur, dans nos émotions, dans notre raison même, dans notre volonté, n'est-ce pas? Et qui nous fait prendre de manière solennelle beaucoup plus la mesure du caractère radical d'une foi authentique. Ça pourrait nous décourager. Alors je suis heureux que demain matin nous puissions directement, après avoir évoqué le sens de ces choses pour nous aujourd'hui, nous aurons cette quatrième caractéristique d'une foi authentique qui a été le moteur des séparations. Ce qui a rendu dans la vie d'Abraham ces séparations possibles, même si elles ont été difficiles.